Lecture par Christine Fusarelli d'un extrait du livre de Sylvain Tesson qui s'appelle La Panthère des Neiges. Extrait numéro 4. Meunier rachetait ma myopie. Son œil décelait tout. Je ne soupçonnais rien. Faire surgir l'objet, voilà qui est plus important que le faire signifier, avait écrit Jean Baudrillard à propos de l'œuvre d'art. À quoi bon gloser sur les antilopes ? Elles avaient surgi, vibrant d'abord dans le lointain, s'approchant, fixant leurs contours, et posées là, soudain, dans une présence fragile, que la moindre inquiétude aurait fait s'évanouir. Nous les avions vues, c'était de l'art. Voir l'invisible. Principe du Tao chinois et vœu d'artiste. Moi, j'avais battu les steppes pendant 25 années sans déceler 10% de ce que Meunier captait. J'avais bien croisé un loup en 1997 dans le sud du Tibet. J'étais tombée nez à nez avec une fouine sur les toits de l'église de Saint-Maclou à Rouen. J'avais surpris quelques ours en 2007 et en 2010 dans la taïga sibérienne, et même eu le déplaisir de sentir une tarentule courir sur ma cuisse au Népal en 1994. Mais c'était des rencontres accidentelles, projetées devant moi sans effort pour les susciter. On pouvait s'échiner à explorer le monde et passer à côté du vivant. Désormais, je saurais que nous déambulions parmi des yeux ouverts dans des visages invisibles. Je m'acquittais de mon ancienne indifférence par le double exercice de l'attention et de la patience. Appelons cela l'amour. Là, en face, sur le talus, un renard à 100 mètres, me disait Meunier, comme nous traversions la rivière sur la glace. Et je m'étais longtemps à voir ce que je regardais. J'ignorais que mon œil avait déjà capté ce que mon esprit refusait de concevoir. Soudain, se composait la silhouette de la bête, comme si, pigment par pigment, détail par détail, elle se précisait dans les rochers, se révélant à moi. N'avait pas été créé pour le regard de l'homme. L'infiniment petit échappait à notre raison, l'infiniment grand à notre voracité, les bêtes sauvages à notre observation. Les animaux régnaient et, comme le cardinal de Richelieu espionnant son peuple, ils nous surveillaient. Je les savais en vie, circulant dans le labyrinthe. Et cette bonne nouvelle était ma jouvence. Des âges inconcevables, avant le Big Bang, reposait une puissance magnifique et monomorphe. Son règne pulsait, Autour, le néant. Les hommes avaient rivalisé pour donner un nom à ce signal. C'était Dieu pour les uns, nous contenant en devenir dans la paume de sa main. Des esprits plus prudents l'avaient appelé l'être. Pour d'autres, c'était la vibration du Om primordial, une énergie matière en attente, un point mathématique, une force indifférenciée. Des marins à cheveux blonds sur des îles de marbre, les Grecs, avaient appelé chaos la pulsation. Une tribu de nomades recuits de soleil, les Hébreux, l'avaient baptisé verbe, que les Grecs traduisaient par souffle. Chacun trouvait un terme pour désigner l'unité. Chacun affûta ses poignards pour zigouiller son contradicteur. Toutes ces propositions signifiaient la même chose. Dans l'espace-temps ondulait une singularité première. Une explosion la libéra. Alors, l'inétendu s'étendit, l'ineffable connut le décompte, l'immuable s'articula, l'indifférencié prit des visages multiples, l'obscur s'illumina. Ce fut la rupture. Fin de l'unicité. Hier, l'homme apparut, champignon à foyer multiple. Son cortex lui donna une disposition inédite, portée au plus haut degré, la capacité de détruire ce qui n'était pas lui-même, tout en se lamentant d'en être capable. À la douleur s'ajoutait la lucidité, l'horreur parfaite. Ainsi, chaque être vivant était-il un éclat du vitrail originel. Ce matin-là, dans le Tibet central, antilopes, gypaètes et grillons à la lutte m'apparaissaient des facettes de la boule disco accrochée au plafond de l'expansion. Ces bêtes, photographiées par mes amis, constituaient l'expression diffractée de la séparation. Quelle volonté avait ordonné l'invention de ces formes monstrueusement sophistiquées, toujours plus ingénieuses et toujours plus distantes à mesure que les millions d'années passaient? La spirale, la mandibule, la plume et l'écaille, la ventouse et le pouce préhensile étaient les trésors du cabinet de curiosité de cette puissance géniale et déréglée qui avait triomphé de l'unité et orchestré l'efflorescence. Comment calmer cette nostalgie du grand démarrage? On pouvait toujours prier Dieu. C'était une occupation agréable, moins fatigante que la pêche à l'espadon. On pouvait aussi penser que l'énergie primitive pulsait, résiduelle, en chacun de nous. Autrement dit, que résonnait en nous tous un peu du vibrato originel. La mort saurait nous réincorporer au poème initial. Enfin, restait la technique de Meunier. Traquer partout les échos de la partition première. Saluer les loups, photographier les grues, rassembler à coups d'obturateur les tessons de la matière mère explosée par l'évolution. Chaque bête constituait un scintillement de la source égarée. Un instant, notre tristesse s'atténuait de ne plus palpiter dans le sommeil de la déesse méduse. L'affût était une prière. En regardant l'animal, on faisait comme les mystiques. On saluait le souvenir primal. L'art aussi servait à cela. Recoller les débris de l'absolu. Dans les musées, on passait devant les tableaux, carrés de la même mosaïque. À lundi pour l'extrait numéro 5.